Le balado qui suit est une production de Communication Niviti, Capable Média.
Ici Kim Auclair pour Capable Entreprendre sans limite et vous écoutez la saison 2 de ce magazine que j'ai eu énormément de plaisir à produire, mais aussi à animer. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à partager en grand nombre chacun des épisodes. Bienvenue à Capable. Aujourd'hui, on rencontre une entrepreneur passionnée par le monde des communications et qui est aussi une forte voix pour la diversité corporelle. Charlie, tu es animatrice de radio, tu es comédienne, tu as aussi ton entreprise Ornum qui fait la promotion de projets musicaux. Tu es aussi une grande voix pour tout ce qui est la diversité corporelle. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui avec moi.
Mais ça fait plaisir. Merci de me recevoir.
Mais oui, hey, écoute, je veux savoir, parle-moi de ton parcours. Qu'est-ce qui t'amène à faire tout ce que tu fais aujourd'hui?
Mon Dieu, depuis que je suis jeune, je baigne dans les communications. Je faisais des cours de danse, de chant, de théâtre. J'ai toujours aimé ça, parler, raconter mes histoires, celles des autres aussi. Donc, ça m'a amenée à devenir animatrice radio. Quand j'ai quitté le secondaire, en fait, quand j'ai gradué, j'ai été étudier à Ottawa en radiodiffusion. Puis, c'est ça qui m'a donné la piqûre vraiment de la radio, les communications. Ensuite, est arrivée la télé. J'ai commencé à faire de la comédie, j'ai joué dans différentes émissions de télé. Tout ce qui touche les arts de la scène, ça m'intéresse. L'humour, tout.
Puis on parle de différence aujourd'hui. Toi, la différence est visible. Mais c'est pas toutes les personnes en situation de handicap qui osent s'afficher publiquement. Puis toi, t'en parles avec aisance, confiance. Pourquoi tu fais ça?
Ben, je pense que c'est d'un naturel. En fait, je suis qui je suis. J'ai un handicap qui est en effet visible, qui est de naissance aussi. J'ai toujours été comme ça. C'est pas un accident, c'est pas un changement qui est arrivé dans ma vie. Donc, j'ai toujours eu de la confiance en moi, puis ça a été facile pour moi de m'exposer. Pourquoi je le ferais pas? J'aime les communications, j'aime l'art. Donc, c'était logique pour moi d'aller dans cette direction-là, puis d'être une voix, comme tu dis, mais tu sais, je suis pas la représentatrice de toutes les personnes en situation d'handicap. Mais si jamais il y avait besoin d'une mairesse, je pense que je me présenterais, là.
C'est vrai? mais ça représente quoi pour toi, justement, de t'afficher? T'sais, on parle de diversité corporelle aussi. Au fond de toi, y a-tu quelque chose qui, comme une mission où t'as compris quand tu le faisais que ça avait un sens, que t'avais un impact auprès des gens?
Oui, bien, notamment dans les dernières années. C'est vraiment quand j'ai commencé à faire de la télé, puis quand TikTok, le réseau social, oui, est arrivé, que j'ai vraiment compris un peu qu'il pouvait y avoir quelque chose de... que je pouvais faire une différence, en fait. Tu sais, au début, c'était vraiment... en fait, on me demandait souvent « comment tu conduis? » Puis je dis « un jour, je vais faire une vidéo sur YouTube, là, puis quand les gens, ils vont me demander comment je conduis, je pourrais leur dire « va voir ça ».
Oui.
Mais finalement, YouTube, c'est long, puis il faut faire du montage. Puis je suis très procrastineuse. Donc, TikTok est arrivé, c'est rapide, c'est efficace, t'as pas besoin d'être un professionnel de montage pour t'en servir. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos, notamment une vidéo de comment je conduis. Je montrais mon véhicule. Puis là, il y a eu un engouement, des millions et des millions de vues. Puis là, j'ai fait « OK, pourquoi essayer d'être comme les autres? » Pourquoi trouver un concept puis essayer de faire des blagues ou ben de jongler quand je ne suis pas capable? Je vais juste être moi-même. Je vais juste montrer mon quotidien. J'ai commencé à faire des vidéos où justement je montrais comment je me faisais les cheveux, comment je m'habillais, comment je cuisinais. Puis les gens ont adoré. Il y a un impact. Puis je pense que ça fait du bien. Premièrement, il n'y a pas de fake, si je peux le dire comme ça. C'est totalement naturel. Je sacre dans mes vidéos, puis je suis moi-même. Puis il n'y a pas tant de montage que ça, là. T'sais, ça me dérange pas. Donc, les gens sont curieux, puis ça leur permet de répondre à leurs propres questions qui seraient parfois gênées de venir me demander en vrai, mettons.
Puis avec tous les commentaires que tu reçois, comment t'es arrivé, vice la Charlie avant qui débutait, vice... aujourd'hui, comment tu arrives à gérer tous ces commentaires-là? Parce que moi, je regardais tes commentaires sur les réseaux sociaux. Tu as ta communauté habituelle qui te suit, ils sont tout enjoués. Mais il y en a toujours des petits méchants qui vont commenter ou quoi que ce soit. Puis comment on arrive à gérer ça, ces commentaires-là?
Mais en fait, c'est fou, ça me fait aucun impact négatif.
C'est vrai?
Je sais qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à gérer ça. Je pense que c'est pas pour tout le monde. Les gens peuvent être excessivement cruels, méchants sur les réseaux sociaux. Quand t'es caché derrière un écran, là,
oui.
T'es pas gêné. Mais il y a personne qui oserait venir me dire quoi que ce soit sur le trottoir, dans la rue. Mais globalement, c'est positif. Puis la première fois que j'ai fait une vidéo, puis que j'ai eu des commentaires négatifs, je me suis dit, hey, je réussis dans la vie. Ça marche. Je fais réagir les gens. Fait que parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en. Je me suis dit, bon, ben ça veut dire qu'il y a quelque chose. Parce que, tu sais, sinon, ce serait juste ma famille, mes amis qui me diraient, t'es bien belle, t'es bien bonne. Puis là, j'étais comme, il y a des commentaires négatifs, je déplais, ben ça veut dire que je fais jaser. Puis à ce moment-là, ben moi, j'en étais contente. Puis de toute façon, sur ma communauté, grâce à ma communauté, j'ai même pas besoin de réagir. Des fois, j'ouvre l'application, puis il y a un commentaire négatif, comme tu dis, mais il y en a 100 positifs, j'ai même pas besoin de rien
le
dire.
Le monde t'sais. Répond à ta place
ouais,
en même temps.
C'est vrai de ma défense. C'est le fun. Fait que c'est sûr que ça fait chaud au cœur. Puis j'ai une communauté engagée, réactive. Puis mais même si c'était pas le cas, je m'abaisserais pas à répondre aux gens négatifs. C'est souvent, tu sais, ils savent pas. C'est même des fois de la peur. Un peu comme quand on va rire ou qu'on va juger quelqu'un. C'est qu'on connaît pas ça, on n'est pas habitué. La différence sous toutes ses formes a fait encore peur. Même en 2025, dans notre société actuelle.
Puis la diversité corporelle, ça vient un peu dans toutes les... Qu'est-ce que tu viens de dire? Cette façon-là, de ta façon à toi de démocratiser.
Oui. Ben oui. Parce que moi, je veux dire, je me suis jamais empêchée de vivre ma vie. Ma best life, comme j'aime dire. Puis, je veux pas que les gens non plus qui ont quelconque différence s'empêchent. Si je suis capable d'inspirer des gens, ben tant mieux. Fonce. Fais ce que t'as à faire. Parce que justement, faut pas se laisser définir par la société ou par des gens qui vivent pas ta vie, là.
Mais cette confiance-là, moi, c'est, moi, j'ai un handicap invisible. Mais cette confiance-là, surtout quand on a un handicap visible, comment elle se développe? Comment tu dis que c'est naturel pour toi? Mais à quelque part, il y a un travail à faire.
C'est sûr que ça part de mon enfance. Là, je pense que c'est mon entourage, ma famille. J'ai toujours été encouragée, aimée. Tu sais, je disais des cours de danse, chant, théâtre. Quand je faisais des cours de danse, là, penses-tu vraiment que les mouvements étaient comme les autres? Non. Non, mais pourtant, on m'encourageait, on me donnait l'estime qu'il me fallait pour que je construise mon estime de moi. Donc, ça part de là. Après, je te dis, je veux dire, c'est sûr que j'ai déjà tombé, mais je me suis relevée. C'est ça aussi qui fait en sorte que tu construis ta confiance en toi. C'est pas un parcours parfait.
Non,
c'est pas d'embûches. Quand t'as des embûches, puis t'es capable de t'en sortir, puis de te relever, bien, c'est ça qui fait en sorte qu'après, t'as plus peur de rien.
Charlie, t'es en même temps une entrepreneur au travers de tout ce que tu fais. T'as créé ton entreprise Ornum qui fait la promotion de projets musicaux. Tu peux-tu m'en dire plus? Quand est-ce que t'as démarré cette entreprise-là puis pourquoi?
Oui, ben dans le fond, j'ai été animatrice radio longtemps. Je dis j'ai été parce que ça sera toujours mon premier amour.
Oui.
Mais pour l'instant, j'en fais pas de radio. J'étais animatrice à CKVL à Montréal, une radio communautaire pendant bien des années et j'étais directrice musicale.
Oh!
Donc, c'est à moi que les artistes, les pisteurs radio proposaient leurs différents artistes, leurs nouveautés pour les jouer à la radio. Et moi, je décidais si oui ou non, ils allaient jouer. T'sais, si c'était dans le son de la
station. Comment on fait pour décider?
Ben avec le format musical. T'sais, si c'est du rap, mettons non, parce qu'on était une station adulte contemporain. Donc vraiment, on mise sur le francophone, on misait sur des gens là, 25-45 ans qui écoutaient notre public cible. Donc tu mets pas n'importe quoi non plus. Puis là, j'étais de l'autre côté de la médaille. Puis un jour, j'ai eu un ami qui voulait justement, qui était auteur, compositeur, interprète, puis qui voulait lancer son matériel à la radio. Mais il y avait pas les contacts, il savait pas comment. Puis je me suis dit, ben mon Dieu, moi, je peux t'aider. C'est sûr que ça sera pas parfait parce que j'ai appris sur le tas. Il y a pas d'école pour devenir pisteur radio, mais j'ai appris sur le tas. Puis j'ai graduellement construit ça. Donc, le but, c'est vraiment de faire le pont entre les artistes émergents, et de les stations de radio. Parce que c'est quand même un monde à part. C'est une industrie qui est très aussi en demande. Fait que de pouvoir...
C'est encore en demande, ça fonctionne encore bien oui. Aujourd'hui.
Bien, la radio a toujours été une plateforme pour faire découvrir la musique. C'est sûr que ça l'a évolué. Dans le passé, tu jouais à la radio puis tu remplissais des salles partout à travers le Québec. Maintenant, ça ne veut plus dire nécessairement ça. Jouer à la radio, ça ne t'assure pas des salles pleines. Non. Il n'y a plus de tournées, de promotions comme on faisait avant. C'est sûr et certain que c'est en train de changer, mais ça amène quand même un impact. Un artiste qui joue à la radio va avoir une belle visibilité.
Puis, est-ce que tu as eu... Parce qu'il y a beaucoup de personnes en situation d'handicap qui ont des handicaps visibles mais qui n'arrivent pas à se trouver des emplois ou qui ont de la misère, justement, à se vendre auprès des employeurs. Toi, si je comprends bien, tu as déjà eu des opportunités, tu as pu faire tes preuves. Tu n'as pas eu l'impression, est-ce que je me trompe, mais tu n'as pas eu l'impression de te battre pour avoir un emploi ou te battre pour relancer ton entreprise?
Bien, en fait, au début de ma vie, oui. Mettons mon premier emploi. Mon premier emploi, là, j'en ai jamais eu. Je voulais, moi, travailler dans un fast-food, travailler pour vendre des sacoches. C'était mon rêve. Je voulais le faire. Je voulais être caissière à l'épicerie. Tous les jobs que mes amis là faisaient, les premiers emplois, je voulais, mais malheureusement, on m'engageait pas. Parce que, justement, la différence...
On se pliait à la première impression.
Ouais. Tu sais, même au cinéma, j'avais déjà eu une entrevue. Et c'est pas aller de l'avant parce que bon, eux, ils pensaient que c'était peut-être une difficulté de plus. Après, il y a des opportunités qui sont arrivées. Par exemple, j'ai commencé à travailler aux amputés de guerre. Mais ça a été ça mon premier job, puis c'était parfait. Mais j'aurais quand même aimé ça, vendre des sacoches. T'sais. J'aurais eu un pourcentage de rabais en plus. Mais tout ça pour dire qu'au final, ben au début, ça a été plus difficile.
Quand je parle au début, c'est quand? Parce que pour moi, t'es très jeune.
Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça fait une dizaine d'années. Mais quand j'étais ado, j'avais 16 ans, puis que je commençais mes débuts sur le marché du travail. Avant d'étudier en radio, là.
Ouais.
Quand je voulais de l'argent de poche, puis que, tu sais, je voulais contribuer à mon indépendance financière, ben ça n'a pas fonctionné comme je l'aurais voulu. Finalement, mon parcours est parfait. J'ai travaillé aux amputés de guerre. J'ai fait des présentations dans les camps de jour pour sensibiliser les jeunes. Donc, ça a commencé déjà là. J'aime parler. Tu sais, aujourd'hui, je fais des conférences dans les écoles secondaires.
Ah oui, avant même de commencer.
Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, tout est dans tout. Au final, le parcours est vraiment parfait. C'est juste que on me refusait au début. Puis je me suis souvent dit, est-ce que je vais être capable de me faire engager? Est-ce que quand je vais avoir gradué, on va me donner une job?
T'avais beaucoup d'expérience, mais t'avais encore cette impression-là que...
Ouais. Ben, je me suis demandé, même quand j'ai gradué du programme de radio, est-ce qu'il y a une station de radio qui va vouloir m'engager? Tu sais, est-ce qu'ils vont s'arrêter à la différence? Faut pas non plus qu'ils tombent dans la... d'en profiter. Tu sais, de dire, ah, parce que des fois, il existe des subventions, par exemple. Moi, j'utilisais beaucoup ça. Fait que je disais à l'employeur, ben écoute, c'est pratique pour toi parce que si tu m'engages, la subvention paye 50 % de mon salaire. Au lieu de me donner 12 $ de l'heure, tu m'en donnes 6. Il me semble que c'est un bon deal. Mais c'est ça. Des fois, c'était plus compliqué puis il y avait des barrières à ce niveau-là. Mais j'ai quand même réussi à avoir...
Mais tu dirais que TikTok a été un élément déclencheur dans ta carrière?
Au niveau entrepreneurial, pas nécessairement. Au niveau de ma carrière télévisuelle et artistique, oui. Je te cacherai pas que je me fais beaucoup reconnaître sur TikTok, oui.
Mais tout le monde en parle. Enfin, on sait que t'as parlé là.
Aussi, ça apporte, c'est ça, une belle visibilité, une belle communauté. Puis ça sensibilise les jeunes, parce que c'est les jeunes qui sont majoritairement sur TikTok. Donc, mais tu sais, je reçois des messages des fois des parents qui me disent « On écoute tes vidéos avec ma fille ou mon jeune fils, puis on les écoute, puis on en discute après ou à la table après, à l'heure du souper. » Fait que je sais que ça fait une différence. D'autres gens qui ont des handicaps, d'autres gens qui sortent avec quelqu'un qui a un handicap. Tu sais, des fois, de voir d'autres réalités, ça fait réaliser beaucoup de choses. Là.
En passant, Capable Entreprendre sans limite vous est présenté grâce au soutien de précieux partenaires. Parmi eux, Evol. Depuis 30 ans, Evol soutient les entrepreneurs du Québec avec une approche humaine et distinctive. L'organisation reconnaît la vision unique de chaque projet et prend le temps de comprendre la réalité des entrepreneurs afin d'offrir un accompagnement personnalisé. Personne ne devrait avancer seul devant les défis. Pour en savoir plus, visitez evol.ca. On va revenir à ton entreprise. Comment tu allais chercher tes clients? Comment qu'on arrive à se vendre? Est-ce que tu avais eu certaines tâches que tu avais plus de misère? Fait que tu t'entourais beaucoup de personnes?
Globalement, non. Donc, moi, j'aurais jamais pensé me lancer dans l'entreprise.
C'est vrai.
Tu m'aurais dit un jour, je vais être travailleur autonome. Moi, ça m'allait d'avoir une paye à chute les deux semaines, là. J'aimais ça. Mais parce que c'est complexe, tu sais, travailleur autonome, avoir une entreprise, on se dit, ah, c'est le fun, tu peux prendre des vacances quand tu veux, tout ça, mais ça vient avec beaucoup de travail. Donc, moi, j'ai tout fait de A à Z. Tu sais, j'ai bâti mon site Internet, j'ai été chercher des artistes avec qui travailler. J'ai pas... Ça a tout été organique. J'ai jamais payé nécessairement pour de la publicité. C'était du bouche à oreille, en fait. J'ai eu la chance quand même très tôt dans le démarrage de Hors Normes d'avoir un pisteur radio puisque j'étais encore à la radio.
Okay.
Donc, j'étais en contact avec les autres pisteurs radio. Puis, il y en a...
C'est un mentor, cette personne?
Ben, je pense pas qu'on peut le considérer comme ça parce que, mais c'est juste que c'est déjà arrivé que j'avais des clients, des artistes qui m'ont dit, ah, c'est un tel qui t'a référé. Donc, il me faisait visiblement de la très belle publicité, puis il parlait de moi. Donc,
est-ce que tu es allé voir des organismes pour avoir, par exemple, du financement ou de l'aide qui était offerte pour démarrer l'entreprise?
Non, mais j'aurais dû.
C'est vrai?
J'aurais dû. Non, mais je savais pas à l'époque qu'il existait autant de services pour aider les jeunes entreprises puis les jeunes aussi qui se démarrent en entreprise.
Si maintenant, t'es vraiment savais, comme dans ton créneau des médias puis t'avais quand même un bon entourage.
Ouais, mais tu sais, au début, j'étais encore à la radio. Mon emploi primaire, c'était animatrice radio. Ça, c'était comme un sideline. Je misais pas tout là-dessus. Puis à un moment donné, ça a commencé à bien fonctionner. Le bouche à oreille, des artistes satisfaits qui en parlaient à d'autres artistes. Tu sais, le monde musical au Québec, le milieu est très petit. Fait qu'avec le bouche à oreille, tu peux rapidement te faire une réputation, tout comme tu peux rapidement la perdre. Mais au final, c'était vraiment comme ça que j'avais de la promotion. Puis je me suis dit, écoute, j'ai envie de me lancer. Au pire, si jamais j'aime pas ça ou ça marche pas, j'ai encore mon expérience, je retrouverai un emploi dans une radio. Fait que là, j'ai lâché la radio, puis j'ai commencé à vraiment vivre de ça.
Puis là, tu vis de ça en plus, comédienne, ouais. En plus de tes opportunités. Moi, je dis tout le temps que les personnes en situation de handicap, c'est des innovateurs naturels, des personnes qui sont débrouillardes. Il y a plein de monde qui doivent te demander encore comment tu fais certaines affaires. Y a-t-il des choses qu'on doit savoir, par exemple, pour te débrouiller autrement, pour aller chercher des clients ou tu dis t'écris tes courriels, tu fais ton site web. Comment tu fais ça avec ton petit doigt?
Ouais. Ouais, je pense que je pourrais te le montrer, mais je tape quand même assez vite.
C'est vrai?
Malgré tout, je pense que je suis dans
mais la c'est un longue. Talent. T'as appris à
c'est
taper.
Pas combien de minutes, là, combien de touches par minute, par seconde, mais je pense que je tape assez vite, ouais.
Les gens sont pas conscients à quel point qu'un petit détail comme ça, c'est... Oui. Quand t'arrivais à te vendre auprès des clients, si tu sentais des préjugés par rapport à ta différence, qu'est-ce que tu répondais pour leur dire que tu étais capable de le faire au final?
Ben dans le milieu dans lequel je suis, j'ai pas souvent senti de préjugés.
Ah.
Parce qu'en fait, c'est vraiment... Tu sais, c'est souvent un contact, exemple, au téléphone. Les gens, ils voient que je veux pas, j'ai du charisme, puis je suis capable de vendre mon produit, puis je sais de quoi je parle. Je pense que c'est une relation de confiance qui est bâtie entre moi et les artistes, mais ça dépend pas de moi. Tu sais, ça fait rien que je sois handicapée au final. Mmh. Que ce soit moi qui sois derrière à vendre son produit ou quelqu'un qui a ses 10 doigts, je pense que les gens, c'est pas par rapport à mon physique et mon handicap qui signe ou non avec moi, c'est par rapport à mes compétences. Puis ils se rendent compte rapidement que je sais de quoi je parle, qu'au final, je veux juste justement accepter les projets avec dans lesquels je crois. Puis au final, je pense qu'il n'y a pas tant de préjugés. C'est vraiment plus les jobs physiques, comme je disais, mon premier emploi, où là, tout de suite, on me disait « Ah non,
ça... » Non.
Non.
Après. Puis tu disais-tu dans ton CV?
Au début, oui. Naïvement.
Puis, t'avais-tu l'impression que ça bloquait des portes?
Ben oui,
c'est ça.
Je pense que je quittais et le CV était dans la corbeille.
Oh!
T'sais, je pense qu'il se rendait même pas au gérant.
Puis en plus, c'est encore présent aujourd'hui.
Ouais.
C'est drôle à dire que tu le vivais il y a plusieurs années, mais c'est encore le cas
ben
aujourd'hui.
Oui. Ben oui. Quand j'ai arrêté de mettre que j'avais un handicap sur mon CV, parce que là, je me disais, c'est quoi le rapport? Ça me définit pas. Là, les gens, ils voient juste handicapé. Ils regardent même pas mes compétences. Quand j'ai arrêté de le mettre, j'ai eu plus de téléphones. Mais là, c'est en entrevue, en vrai, quand on se rencontrait, je le voyais dans le regard des gens que c'est par politesse là, qu'on me revirait pas de la main. Mais au final, je savais très bien qu'on
prend ta confiance en soi, ta confiance devait quand même apporter un petit quelque chose de plus.
Ouais, mais à ce moment-là, ça a été ébranlé. Tu sais, je disais tantôt, faut tomber pour savoir se relever puis la bâtir, notre confiance. 100%, mais ça fait partie de... C'est pas un échec, mais un peu, tu sais. Ça donnait un coup tout le temps. C'est comme un rejet, veux pas. Puis moi, je savais que j'étais capable de faire l'emploi. Tu sais, j'aurais été capable de flipper des frites au McDo, là. Bon. Peut-être pas, dans le fond. Peut-être. Mais tu vois, je suis jamais allée porter mon CV au McDo. Ça, je le savais. Je visais pas trop haut. Je voulais pas travailler dans un salon de coiffure. J'étais quand même réaliste. Mais je savais que d'être derrière une caisse, au pire, j'aurais eu un petit banc.
Ben oui.
Tu sais, au pire, j'aurais eu un petit banc, j'aurais fait la caisse, de vendre du linge ou quoi que ce soit. Je savais que j'étais en capacité de le faire.
Puis des fois, c'est une question de confiance. Tu sais, c'est plate de pas avoir sa première fois, de voir que c'est plus facile pour d'autres personnes d'avoir cette première fois-là. Mais souvent, c'est juste une question de confiance. Fait que ce que tu dis, si tu aurais aimé ça, avoir un petit peu plus de chance plutôt, mais tu t'en es très bien sorti.
Tu sais, je me suis déjà dit, je serais meilleure qu'elle.
C'est vrai?
Pour faire la job, que mettons la personne, que je la connaisse ou non, je serais vraiment meilleure. Mon service serait meilleur, mais on me donne pas ma chance. Donc...
Puis ça, puis comment tu te définirais en trois mots?
Mon Dieu! En trois mots. Bien, clairement, je dirais confiante. Peux-tu dire ça? Je dirais en trois mots, c'est difficile. Je dirais que je défonce des portes. C'est trois mots, ça?
Oui.
Ça bon, compte.
On
défonce des
fonceuse.
Portes. Fonceuse. C'est
défonceuse.
Bon. C'est bon, ça. Fonceuse. Défonceuse un peu moins. Mais fonceuse, ouais. Fonceuse, confiance. Puis je pense que je suis drôle.
Oui, je pense que
je me
oui.
donne.
Ah, ben, j'ai oublié de mentionner que tu étais humoriste aussi. Oui. Comment ça t'es venu dans le... comme ça aussi.
Ben oui, mais on dirait que je me suis dit, j'ai pas assez de travail, je vais m'en rajouter.
Avec un autre titre.
On va faire des blagues. Ben, c'est sûr que justement, on parlait de confiance, l'autodérision, ça en fait partie. Depuis que je suis jeune, que je fais des blagues, que c'est une belle façon aussi de démystifier l'handicap puis d'enlever le malaise quand il y en a un. De rire de soi-même, c'est une belle qualité. Donc, moi, je pense que c'est aussi quelque chose qui me définit. Puis à un moment donné, on m'a proposé de faire un 10 minutes d'écriture humoristique. Puis je me suis dit, ben si je le fais pas là, je le fais jamais. Fait que je me suis dit, je vais le faire.
Puis là, donner ça.
Ouais, puis j'ai commencé. J'aimerais ça avoir un one-woman show un jour. Je vais le présenter ici.
Ben oui, exactement, tu vas te présenter ici. Mais c'est dans le fond, là, avec tu pourrais-tu le faire sur TikTok ou faire en plusieurs séries ou tu voudrais vraiment avoir ta scène à toi?
Il y a plein de possibilités. J'aimerais ça devant le public. Moi, j'aime ça, là, le bon vieux, une salle de spectacle là, devant le public. Là, ça apporte un rush d'adrénaline. J'aime ça, le stress. Sur le coup, non, je me dis, qui a eu cette idée-là? Mais c'est moi, puis je pense que ça serait le fun, là. Mais c'est sûr que je le fais aussi sur TikTok. Tu sais, j'utilise beaucoup l'autodérision, puis des blagues. Puis je pense que les gens aussi aiment ça, là. Ça fait changement de tout le fake qu'on peut voir aussi sur les réseaux sociaux.
Mais t'es vraiment vrai comme personne. Puis de quoi t'es le plus fier de toi d'avoir accompli récemment, justement, ou dans tout ton parcours?
Mon Dieu, c'est
il y a beaucoup de choses, je trouve.
Mais c'est sûr que d'avoir mon indépendance, ne serait-ce que par ma voiture, ça, j'en suis fière. Parce que je sais qu'il y a des gens avec des handicaps, et on a tous des handicaps différents, mais qui se seraient empêchés. Même s'ils sont capables de conduire, ils se seraient peut-être empêchés, ils se seraient dit « Oh non, c'est trop stressant, c'est trop dangereux. » C'est moi, tout de suite, le plus rapidement que j'ai pu avoir mon permis puis avoir ma première voiture, je l'ai faite.
Est-ce que la personne qui t'aidait, justement, avait des préjugés ou...
Non, parce que ben c'était vraiment dans un centre spécialisé là, okay. À Montréal pour les personnes qui sont en situation de handicap.
Je savais même pas que ça...
Ouais, ça s'appelle Constance Lethbridge, puis on les salue.
Salut!
Puis eux sont habitués, là, ils font beaucoup de gens aussi en fauteuil roulant, d'adapter aussi le véhicule par la suite, mais eux, c'est comme adapter temporaire pour ensuite que tu fasses adapter ton véhicule. Fait que c'est vraiment spécialisé, donc c'est une belle opportunité, mais je sais qu'il y a des gens qui s'empêchent.
Oui, parce que la limite, dans le fond, est dans la tête plus qu'autre chose, mais c'est aussi... En fonction peut-être de l'environnement que tu disais tantôt, tu es entouré de personnes qui t'ont toujours poussé, qui t'ont toujours encouragé. L'environnement dans la personne dans laquelle elle a grandi, mais des pensées limitantes qu'elle va avoir. Mais tu sais, une fois que tu le fais...
Oui, mais personne m'en aurait voulu si j'avais dit, moi, je veux pas conduire. Les gens auraient fait, ben, ça fait bien du sens. Mais au final, je veux dire, c'est moi qui disais, non, je suis capable, même avec un doigt, j'ai assez de réflexes, j'ai assez de force dans le bras pour conduire. Puis de toute façon, qui conduit vraiment les deux mains sur le volant? Personne.
Ça serait quoi, les tâches que tu aurais le plus de misère à accomplir dans ton quotidien? Je suis curieuse de savoir.
M'attacher les cheveux, c'est impossible.
C'est vrai?
Oui.
Mais pourtant, je t'ai vu avec un fer...
Oui, les friser.
OK, les friser, oui.
Les friser, oui, mais pas les attacher. Ça, c'est impossible. Parce que c'est avec un doigt...
C'est vrai.
Les rassembler, puis tenir l'élastique, puis tout ça, oui, oui. Même avec une pince ou quoi que ce soit, ça fonctionne pas. Ça, j'ai abandonné, là. Pendant un bout, je me suis dit, on va trouver une solution. Tout se fait. Ouais, non, c'est pas grave. Je demande à mon entourage, aux gens autour de moi. Les gens sont habitués. Même mon chum, il va apprendre à faire des tresses bientôt.
C'est vrai?
Je sais pas.
Là-dessus, il va devenir coiffeur.
Oui. Non, mais tu sais, au début, j'étais gênée, mais rendu là, c'est juste que c'est pas lui qui fait les plus belles queues de cheval, là, mais il va s'améliorer avec le temps.
Hey, on approche déjà de la fin, Charlie. J'aimerais savoir, pour toutes les personnes qui ont un handicap, ont une différence, justement, qui croient qu'elles sont pas possibles de s'accomplir, d'aller créer leur propre opportunité et leur propre emploi, leur propre entreprise, quel conseil que tu leur donnerais?
Le plus gros conseil que je peux donner, c'est de ne pas attendre qu'on vienne frapper à votre porte, parce que peut-être que l'occasion, elle arrivera jamais. Faut la créer, son occasion. T'sais, faut le faire. Là. Moi, si je veux faire un projet, j'ai une idée de concept télé, je vais pas attendre qu'on me le propose parce que ça arrivera peut-être pas. Donc, de prendre le taureau par les cornes, de foncer, d'accepter que en fait, on est différent, mais de pas se laisser définir par les autres, t'sais, par ses propres valeurs plutôt, puis vraiment juste de foncer puis d'essayer de créer ses propres opportunités.
C'est des excellents conseils. Mais je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous.
Ben merci, ça fait vraiment plaisir. Ouh, c'était le fun.
J'ai un cadeau pour toi.
Merci. Tu veux-tu m'aider à l'ouvrir?
Oui, oui, oui. Il n'y a pas de problème. En fait, c'est une phrase que j'ai dit dans notre entrevue. Oh. Puis, c'est ça. C'est juste un petit souvenir. Fait que, dans le fond, il y a un petit mot.
Merci. Regarde.
Fait que, ça. Moi, j'aime ça, des souvenirs, laisser des souvenirs. Oh. Je suis un peu trop maman avec tout le monde, là, mais.
On est
comme tu vois l'expérience que tu dis depuis le début, ben, j'aime ça de la fin.
Et ça, c'est un cadeau de touriste, Charbonne-Égard.
Hey, on va se saouler à soir.
Okay.